Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à toutes et à tous. On le sait, les écrans sont sur toutes les bouches du monde adulte, surtout quand il s'agit de la surexposition de nos enfants. Nous sommes conscients des dangers que le numérique représente pour nos enfants, mais également des opportunités qu'il offre à notre société. Trouver un équilibre dans l'usage de nos écrans, c'est la philosophie de Natacha Didier, notre invitée du jour. À travers le contenu qu'elle a créé, comme la boîte à idées ou son dernier ouvrage aux éditions Attier, Natacha offre aux parents des astuces pour responsabiliser les enfants quant à leur usage de leur écran, tout cela de manière ludique et créative. Vous trouverez dans cet épisode un grand nombre d'astuces pour détourner les enfants des objets numériques. Vous allez adorer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler des enfants et des écrans, et plus particulièrement pour comprendre la méthode et les activités à mettre en place pour réguler le temps que les enfants passent sur les écrans. En effet, vous avez récemment sorti un livre aux éditions Attier, qui s'appelle « J'aide mon enfant à se détacher des écrans » et qui reprend ses concepts. Alors dans ce livre, il y a une phrase qui est, il me semble, en introduction, où vous parlez des écrans et que j'aime beaucoup, donc je vais la citer. Vous dites « J'ai fait le choix du juste milieu en les acceptant au sein de mon foyer, les apprivoiser plutôt que de les interdire complètement. » Donc avant que l'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes intéressée à l'usage des écrans des enfants? Et quel était le constat au sein de votre famille?
Alors effectivement, donc je suis une maman de trois enfants. Donc à l'époque, mes enfants étaient âgés de 2, 5 ans et 8 ans. Et j'ai été confrontée, comme tous les parents, à un moment donné, à un usage un peu trop excessif des écrans. Donc c'était sans arrêt des demandes, surtout de mon aîné, qui me demandait « Maman, je peux jouer à la tablette ? Maman, je peux prendre la console ? Maman, on peut allumer la télé ?» Voilà, donc j'ai été vite débordée. Un coup, je disais oui, un coup, je disais non, un coup, je disais bah, pas maintenant, à un autre moment. J'arrivais pas à me détacher de ces demandes incessantes, que j'ai qualifiées d'incessantes. Et puis ensuite est venue aussi les demandes de mon second, qui voyait finalement à son grand frère demander. Donc lui aussi voulait jouer comme lui. Et puis c'est surtout ma petite dernière de 2 ans qui a été un peu, on va dire, l'élément déclencheur. Parce qu'un jour, elle aussi, elle a un peu revendiqué le droit de jouer à la tablette et de demander la tablette. Et ce jour-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Déjà à 2 ans, voilà, en fait, elle a l'exemple de ses grands frères. Et comment je pouvais contrer ça et lui dire, bah non, toi, t'as pas le droit. Donc, c'est un peu la prise de conscience que j'ai eue ce jour-là, qui m'a fait innover et qui m'a, alors suite à une colère, hein, je me suis emportée ce jour-là. Hein, je vais pas le cacher. Et j'ai dit à mes enfants, bon, écoutez, là maintenant, ça suffit. On va aller prendre des bouts de carton, des feutres, des ciseaux. Et on va découper dans du carton des tickets Et sur ces tickets, je vais vous indiquer un temps, une durée. Donc pour le grand, je me souviens très bien, je lui avais fait 3 tickets de 30 minutes. Et pour le second, je lui avais fait 2 tickets de 30 minutes. Et ma petite dernière, je lui avais fait un ticket, mais c'était vraiment histoire de lui donner un ticket comme les autres, mais j'avais rien inscrit dessus. Et puis, ils ont commencé à découper ces tickets, à les peindre, à les colorier, à les customiser. Ensuite, on est allé chercher le minuteur de la cuisine, qui était utilisé jusque-là pour faire cuire les œufs et les pâtes. Et voilà, et je leur ai dit, maintenant, ce minuteur, vous allez l'utiliser. On va mettre les tickets sur le frigo de la cuisine avec des aimants et vous allez disposer de ces tickets le mercredi, le samedi, le dimanche. Et puis, quand vous aurez plus de tickets, quand vous aurez utilisé votre quota de tickets, ce sera plus la peine de me demander de jouer avec les écrans. Voilà, donc en fait, avec du recul aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que finalement, à cette époque, pourquoi j'ai été envahie comme ça de demandes, c'est parce que j'avais pas défini de règles avec les écrans à la maison. Et c'est vrai qu'on définit tout un tas de règles à la maison avec les enfants, en fonction de l'âge, en fonction de nos habitudes de vie, de nos on va leur dire on mange pas dans la voiture. Parfois on explique pourquoi et parfois d'autres fois non. Mais on a défini une règle. On mange pas dans la voiture, on va se laver les dents après les repas, pardon. On définit des règles de vie au sein du foyer. Et sur les écrans, curieusement, j'avais pas défini de règles. Et pour beaucoup de parents, c'est comme ça. Parce qu'en discutant avec des amis, c'est ce que je me suis rendu compte, que on définissait pas de règles. Et finalement, ça nous arrange aussi quelque part de pas définir de règles, parce que parfois ça nous arrange que nos enfants, il faut le dire, il faut le reconnaître, ça nous arrange, à un moment où on va pas avoir le temps de, entre guillemets, de s'occuper d'eux, de préparer le repas, par exemple. Ils sont sur les écrans et on est bien tranquille pour préparer le repas.
C'est génial ce que vous avez fait, parce que vous avez réussi à votre manière de les responsabiliser. Et je connais un peu votre histoire et je sais que c'est devenu même un concept que vous avez créé qui s'appelle la boîte à limites et qui est vendu dans plein de magasins. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire également de la boîte à limites ?
Alors, inconsciemment, c'est vrai que j'ai donné naissance à un concept aujourd'hui de la boîte à limites. Et parce que, en fait, le fait d'avoir défini cette règle à la maison, ça m'a déchargée. J'ai beaucoup moins culpabilisé. Et finalement, j'ai vu que mes enfants avaient compris cette règle et ont adhéré. Alors, je les ai fait adhérer à cette règle de manière ludique, comme parfois on peut, les enfants adorent jouer. Donc finalement, de les faire participer à construire cet outil, hein, qui est devenu aujourd'hui un outil, les a amenés à se responsabiliser. Et d'eux-mêmes, j'ai vu que d'eux-mêmes allaient chercher leur ticket, allaient mettre en route le minuteur. Et puis, quand le minuteur sonnait, y a toujours un petit « maman, on peut continuer » ou « j'ai pas fini » parce que ça reste des enfants et que les enfants sont là toujours pour transgresser les règles. Mais finalement, moi, même si aujourd'hui je vais finalement leur dire « le minuteur a sonné, maintenant c'est terminé », je vais moins culpabiliser, parce que je sais que le temps d'écran est terminé et qu'on va pouvoir aussi passer à quelque chose, et qu'eux-mêmes aussi vont pouvoir passer à quelque chose d'autre. Donc, ce que j'ai voulu mettre dans cet outil que je propose aujourd'hui aux parents, j'ai voulu mettre une réglette semaine et des magnettes temps pour pouvoir construire avec l'enfant finalement le petit planning, le petit programme qu'on va pouvoir décider avec lui. Donc on va pouvoir l'afficher sur le frigo de la cuisine, par exemple, ou sur un élément ou une porte magnétique. afin que l'enfant ait bien le voilà la règle sous les yeux. C'est un peu comme comme Super Nanny qui affiche après qui a défini la règle avec les parents et les enfants et qui va l'afficher pour que tout le monde derrière adhère. Et puis dans la boîte, dans le jeu éducatif, hein, puisque c'est comme ça que je l'ai baptisé, on va retrouver un feutre et on va pouvoir indiquer sur chaque magnète le temps d'écran qu'on accorde à l'enfant. Donc par exemple, si l'enfant, alors au départ, c'est ce que j'explique dans le petit manuel, le petit livret conseil. Je vais d'abord demander aux parents, en fait, finalement, quel objectif ils vont se fixer. Parce que on va pas avoir les mêmes problématiques avec parfois c'est la télévision, parfois c'est la tablette, parfois c'est la console de jeu qui va être où il va avoir une surconsommation. Parfois et puis aussi au départ évaluer toujours parce qu'on a l'impression que les écrans, le temps d'écran nous bouffe. Si vous me permettez l'expression, mais finalement au départ il faut l'évaluer parce que peut-être que bah oui l'enfant va jouer tous les jours, mais il va peut-être jouer 30 minutes tous les jours et puis bah c'est pas ça qui va mettre en péril à mon sens hein, c'est pas ça qui va mettre en péril voilà ses futures compétences ou qui va le mettre en danger voilà donc c'est bien de commencer par une évaluation. Donc, c'est ce que je propose dans le livret conseil. Et puis après, de se fixer aussi des objectifs. Et après, de décider ensemble avec l'enfant. Bah voilà, par exemple, aujourd'hui, le mercredi, tu vas pouvoir, ou papa et maman vont t'autoriser à jouer 30 minutes. Ou pendant les vacances, ce sera peut-être 60 minutes. Ou alors, voilà, les jours de pluie, ce sera peut-être un peu plus. Enfin, adapté aussi en fonction de l'âge, en fonction des activités, en fonction de ce qu'on a à faire, en fonction de son propre planning. Et puis, une fois que l'enfant a bien compris, on peut lui proposer donc d'utiliser le minuteur. Donc, dans la boîte à limite, on va retrouver un minuteur qui va sonner pour rappeler à l'enfant que le temps est épuisé et que son temps de jeu est terminé. Voilà, donc après, la boîte à limite, c'est vrai que j'ai mis en jeu des super-héros. Pour aider l'enfant à s'identifier et pour le faire devenir le super-héros du temps d'écran. Et à la fin de la semaine, on va pouvoir l'encourager, le féliciter avec des magnettes félicitations, bravo, tu as bien respecté la règle. Et ça va déclencher en fait une routine chez l'enfant. On sait que les enfants aiment bien les routines. Les parents aussi, ça rassure. Et l'enfant, finalement, va rentrer dans ce jeu-là, dans cette routine. Et puis, toutes les semaines, il va savoir que finalement, bah, les jours de la semaine, enfin, en tout cas, chez moi, c'est comme ça que je l'ai mis en place. C'est que les jours de la semaine, il n'y a pas d'écran. Et puis après, le mercredi, le samedi, le dimanche, une fois qu'on a fait, ou avant, voilà, de partir, bah oui, ils ont leur temps d'écran.
Et donc, au fond, quelle est votre philosophie par rapport aux écrans?
Alors, ma philosophie, ça a été plutôt d'accepter les écrans à la maison. Parfois, alors j'en ai eu peur, hein, il y a eu un moment où j'en ai eu peur, un peu au début d'ailleurs. C'est vrai que voilà, parce que j'arrivais pas à gérer en fait cette demande. Et puis, à la fois, je culpabilisais que mes enfants soient trop devant les écrans. Et puis, ça a fait son bout de chemin. Et aujourd'hui, voilà, je suis fière de le dire. J'accepte d'avoir les écrans à la maison parce qu'on ne peut pas voir non plus que les dangers des écrans. On parle beaucoup des dangers, de l'impact négatif, mais il y a aussi des impacts positifs avec les écrans. Et de toute façon, nous vivons dans un monde numérique aujourd'hui et il faut l'accepter. Et nos enfants aussi sont les premiers et vont... Demain, avoir des métiers qui sont liés au numérique et aux écrans. Donc, tout est question d'équilibre. Souvent, je fais la comparaison avec l'alimentation. Voilà, on rejette pas. Ce qu'on rejette, c'est la malbouffe. Et aujourd'hui, avec les écrans, ce qu'il faut rejeter, c'est les excès. Et si on mange un peu équilibré, un peu de tout, on sensibilise aussi l'enfant à son alimentation, à ce qui est bon, à ce qui est moins bon. Aujourd'hui, d'ailleurs, les pouvoirs publics ont mis en place des Nutri-Score pour l'alimentation. Ça permet aussi de sensibiliser l'enfant. On peut faire un parallèle aussi avec la réglementation voilà, PG sur les films, sur les jeux vidéo. On a des petites icônes qui vont permettre à l'enfant de se situer, de dire, et puis d'asseoir aussi notre décision. Voilà, moi facilement maintenant, je dis aux enfants, ben voilà, si tu le vois, je peux pas t'acheter ce jeu, tu peux pas jouer à ce jeu parce que c'est interdit. Et c'est un peu comme pour la voiture. Bon, bah, on autorise de conduire à 18 ans ou à 16 ans avec la conduite accompagnée. Donc moi, je peux pas t'autoriser à jouer à ce jeu-là parce que tu n'as pas l'âge. Et c'est mon devoir en tant que maman, en tant que parent, en tant que papa de te protéger par rapport à ça. Voilà, donc pour revenir à la question, j'ai décidé de faire rentrer les écrans à la maison tout en en trouvant un équilibre et en essayant d'accompagner au mieux mes enfants en fonction de leur âge, en fonction aussi de leurs demandes, parce que c'est vrai que mon aîné est plus demandeur de jouer à des jeux vidéo. Mon second, je crois que c'est parce qu'il voit beaucoup son frère. Il est en demande, mais c'est vrai qu'il est moins attiré par les écrans.
C'est vrai qu'en plus, d'un enfant à un autre, il peut avoir des dispositions très différentes par rapport à l'usage des écrans.
Voilà, c'est ce que je constate en tant que maman. Après ma petite dernière aujourd'hui qui a grandi, qui a 6 ans, c'est vrai que les jeux vidéo, ça ne l'intéresse pas du tout. Alors, je ne sais pas après si elle a fait un rejet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ça devient ce qui était personnel est devenu professionnel. Et maintenant, j'ai écrit ce livre et puis cette boîte à limite que je commercialise. Donc, je parle beaucoup d'écran à la maison. Ils me voient, ils m'entendent à la radio. Parfois, je leur montre les articles pour lesquels j'ai été interviewée. Alors, peut-être que ma fille... je l'ai un peu analysé aussi. Je me suis dit bon, peut-être qu'elle aussi, elle ose pas. Maintenant, elle ose même pas demander.
Ouais,
elle ose même pas
parler.
Demander de la tablette parce que maman, elle travaille dans ce domaine-là. Mais après, à cet âge-là, on fait aussi tellement de choses aussi à la maison, de la cuisine, des activités que. Alors, c'est sûr que je suis pas un parent, une maman extraordinaire. Hein. Il y a des moments où j'ai pas envie. Je suis comme tout le monde. Je suis fatiguée. J'ai pas envie de jouer avec eux ou de faire une activité ou qu'il y ait du bazar dans la maison. J'ai mis en place un certain nombre d'astuces et notamment une dont je parle sur mon livre, le bocal à idées. C'est un petit bocal qui permet à l'enfant d'aller piocher des idées, de jeux, d'activités ou de, pas trop ça, mais d'occupation. Ça peut être d'aller téléphoner à papy mamie par exemple, enfin voilà, donc ça les amuse et d'eux-mêmes en fait ils vont aller piocher de temps en temps. Puis alors l'idée c'est d'aller changer régulièrement ces activités et de que eux inventent des petits jeux. Ils vont aller piocher ça et puis des fois je leur dis comme tout le monde, enfin comme me disait ma maman quand j'étais petite, tu t'ennuies, c'est bien de s'ennuyer aussi.
Voilà. Ça c'est sûr. On va y revenir à tous ces petits jeux que vous avez inventés et que je trouve vraiment géniaux. Mais avant qu'on en parle, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment ça se fait que les enfants aient une attirance si forte pour les écrans. Je sais que vous avez dû faire quelques recherches aussi pour l'écriture de votre livre et tous les concepts que vous avez lancés. Mais j'aurais bien aimé que vous reveniez là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez perturbant et notamment chez les bébés que l'on voit déjà très attirés par les écrans. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à nous partager là-dessus.
La première chose, c'est que déjà, les écrans sont présents dans nos foyers, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. La multiplicité des écrans fait que on va passer par le robot pour faire la cuisine connectée, par la télévision, par bien sûr nos smartphones, par l'écran dans la voiture. Donc en fait, les écrans nous entourent et sont là. Parfois à l'école aussi, hein, y a des écoles qui sont équipées déjà d'écrans. On est attiré parce que les écrans sont là et qu'on les regarde. Et que les parents ont ces écrans, je dis les parents, mais je m'inclus aussi, moi aussi, j'ai mon smartphone dans la main et je m'en sers et voilà, donc, je m'en sers et je m'en sers aussi pour les enfants. Tiens, regarde la vidéo, tiens, regarde cette photo. Donc, ça devient un peu l'objet le plus convoité de la maison. C'est pour ça que c'est important de fixer des règles par rapport à ces écrans. Ensuite, il y a aussi la faute au cerveau. C'est pas que la faute des parents et la faute des écrans, c'est aussi la faute du cerveau qui est coupable. Et le coupable, c'est les techniques scientifiques qui sont basées sur des données des sciences cognitives dans le but d'accaparer l'attention, notre attention. Donc les développeurs, les ingénieurs, du web utilisent des astuces pour rendre accro le cerveau et influencer nos comportements, influencer notre façon d'agir. On nous invite à liker, on nous invite à cliquer, à scroller, à regarder ces vidéos qui s'enchaînent. On parle beaucoup aussi d'algorithmes. Toutes ces techniques, en fait, activent le circuit de la récompense, hein, de notre cerveau. Et notre cerveau va produire de la dopamine et engendrer. Donc, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et puis, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, plus on va cliquer, plus on va faire, plus on va aimer, plus notre cerveau va aimer et va en demander encore. C'est un peu le même processus qu'on a avec le sucre. Donc là on n'y peut pas grand chose finalement. On a des parades bien sûr avec des contrôles parentaux, avec des systèmes qui vont nous aider à bloquer, et puis avec aussi notre sensibilisation, expliquer ça à l'enfant finalement, dire que lui aussi il va être attiré, mais qu'il peut maîtriser ça parce que voilà, son cerveau à un moment va être leurré et c'est à lui de réagir. Au début les parents sont là pour l'accompagner, hein, parce qu'il va pas pouvoir y arriver tout seul, parce que même nous on est pris dans ce piège là infernal. Voilà, puis après j'en ai un peu parlé, il y a le modèle des parents, donc c'est vrai qu'on peut pas demander à nos enfants de pas utiliser les écrans, si nous-mêmes on est toute la journée sur nos écrans, sur notre smartphone. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai mis ça en place à la maison, c'est-à-dire quand on arrive, on dépose le téléphone sur le meuble à l'entrée, et puis on va couper les notifications, le mettre en silencieux, et puis on va le reprendre ou le rallumer, quand le repas est terminé, ou quand les enfants sont couchés. Voilà, donc c'est des petits traits qu'on doit essayer de s'imposer pour pouvoir après les imposer aux enfants.
Alors, vous avez parlé de la règle de surveillance, donc notamment grâce au contrôle parental que l'on connaît de mieux en mieux. J'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre, vous parlez de la règle des 4 pas. Je ne sais pas si vous pourriez nous en parler.
Alors, la règle des 4 pas, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est Sabine Duflo, qui est psychologue clinicienne. Mais c'est vrai que ça peut donner un bon repère pour les parents. Donc, le premier pas, c'est pas d'écran déjà pendant les repas. Donc, là, il faudrait éviter de pas mettre la télévision allumée d'éloigner le téléphone, le smartphone de la table. Voilà, donc ça c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est d'éviter de mettre l'écran, d'avoir des écrans dans la chambre, parce que là, on va pas pouvoir contrôler, même si on pense que notre enfant est endormi ou va nous écouter, c'est tentant de déjà transgresser l'interdit. Et puis après, pourquoi pas rallumer, hein. On a tous dit oui à nos parents, et parfois derrière on a fait autre chose, donc ne pas le laisser tenter par ça. Donc autant enlever tous les écrans de la chambre. Et puis le troisième pas, c'est le matin, d'essayer de pas allumer pareil les écrans le matin avant de partir à l'école, parce qu'on sait que ça va vraiment avoir un impact sur la concentration. Donc plutôt que de préparer le petit déjeuner à nos loulous et de les installer devant la télévision avec un plateau, c'est plutôt de leur dire de préparer le petit déjeuner, et finalement ils vont être occupés à faire la tartine et à faire leur bol de cacao par exemple, et puis ils auront plus le temps de regarder la télévision. Donc ça peut être difficile au départ de revenir en arrière, hein. Plutôt on donnera les bonnes habitudes ou on cassera les mauvaises habitudes, mieux ce sera, et finalement après les enfants acceptent ces règles-là. Voilà, et puis le dernier pas, c'est avant de s'endormir. Donc là aussi, on essaye de mettre en place une nouvelle routine, pourquoi pas de faire jouer à l'écran, de regarder un petit dessin animé avant la douche. Et puis, après c'est terminé et on essaye de jouer ensemble ou de lire un livre avant de s'endormir, mais surtout pas donner un écran à ce moment-là.
Moi, ce que j'adore avec ces règles, c'est que c'est des règles que le monde adulte doit s'appliquer aussi, qui est parfois bien compliqué à suivre. Donc, vous avez parlé des jeux, donc j'aimerais bien qu'on parle de tous ces jeux et de ces activités que vous avez mis en place pour aider les enfants. En effet, dans votre livre, vous en recensez 50, donc il y en a vraiment beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles ont des objectifs assez différents, que ce soit à la fois de responsabilité sur le temps d'usage de l'écran, mais aussi pour emmener un peu plus les enfants dehors ou pour leur apprendre la patience. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur les grands objectifs de ces jeux. Et si vous pouvez nous partager quelques exemples, je suis sûre que ça fera beaucoup plaisir à tous nos auditeurs.
Alors dans le livre, effectivement, j'ai découpé en trois grandes parties. Donc la première partie, j'ai partagé des astuces pour éloigner donc les enfants des écrans. La deuxième partie, c'est des alternatives aux écrans. En fait, c'est de simplement dire que quand on va leur proposer des moments de partage avec eux, ça va être des moments en moins seuls face à l'écran, tout simplement. Et puis dans la dernière partie, j'ai voulu aussi montrer que les écrans, c'était pas complètement mauvais et qu'il y avait une richesse d'activités, parfois qu'on n'avait même pas eu l'idée d'aller rechercher, et qu'on pouvait partager du temps d'écran avec ses enfants, avec des applications, avec des jeux. Et donc je l'ai appelé les jeux pour jouer ou les astuces pour jouer intelligemment avec les écrans. Voilà, donc si je peux vous partager, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc je vous ai parlé déjà d'une petite astuce, le bocal à idées, tout à l'heure, pour aider les enfants eux-mêmes à les responsabiliser et à les encourager à trouver leur propre idée de jeu. Donc c'est de partir aussi de leur proposer pas non seulement l'activité, mais de bâtir avec eux l'activité. Donc le bocal à idées, on le fait pas seul, mais on le fait avec eux. Donc on va choisir un bocal ou une boîte ou une boîte à chaussures qu'on va décorer, qu'on va découper. Et les jeux, c'est pareil, on va leur demander qu'est-ce que t'aimerais bien faire, qu'est-ce que t'es. Eux-mêmes vont avoir plein d'idées et finalement on va pas se casser la tête parce que on n'y avait pas pensé. Et ils vont nous proposer des choses qu'ils ont envie de faire et qu'ils seront contents de retrouver quand ils vont tirer le petit papier. Ensuite, il y a une petite astuce que j'aime bien. J'ai appelé ça le dé magique. Donc, c'est de prendre avec eux un dé dans un jeu de société et puis de lui faire lancer le dé. Et de lui dire, si tu tombes sur le 4, par exemple, ce sera ton temps d'écran. Donc, ça sera pas 4 minutes, hein, mais 40 minutes. Ça sera 40 minutes. Et un peu comme lui dire, c'est un jeu de poker, un peu de, voilà, où moi je vais pas décider finalement, c'est pas moi le parent, la méchante, voilà, un jeu de hasard. C'est pas moi la méchante et finalement c'est le dé qui va choisir. Et ben aujourd'hui, voilà, tu auras 30 minutes ou 50 minutes, voilà, si t'as de la chance. Et puis après, bon, bah, je vais proposer aussi des petites astuces, le jeu de la prison. Donc, on a parlé de l'exemple des parents, du modèle des parents. Donc, ça peut être construire avec eux une petite prison à portable. Alors, on peut aussi la décliner en prison à écran, à console de jeu ou à tablette ou à télécommande de télévision, d'ailleurs. Une fois, j'ai une maman qui m'a dit « Ah ben nous, on a fait ça pour la télécommande de la télévision. » Voilà, donc soit la prison, soit le dodo aussi, le lit à portable, tout dépend de l'âge de l'enfant. Pour les plus petits, il y a une maman qui m'a parlé de ça et qui allait jusqu'à voilà, faire la couverture pour le smartphone. Donc comme ça, papa et maman vont pouvoir déposer le smartphone dans le lit à portable. Voilà, le tout, c'est de jouer avec eux, hein. D'essayer de déplacer un peu le problème. Et pour nous, ça nous permettra de moins culpabiliser, de moins s'énerver, de moins en faire un problème finalement à la maison. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et pour eux aussi, de l'aborder de manière ludique et de pas interdire et être sans arrêt dans les reproches et dans « tu joues trop, il y en a marre, je vais tout débrancher, je vais tout ranger, je vais tout casser ». Voilà, ça permet aussi de calmer le jeu et voilà. Donc dans la deuxième partie, là où j'ai proposé des alternatives aux écrans, donc j'étais un peu inspirée parce que ce livre, je l'ai écrit juste après le premier confinement. De mars, avril, mai 2020. Et donc, on a tous à ce moment-là réinvesti un peu notre rôle de parents à la maison parce qu'on a eu le temps ou pas. Mais on a eu des moments où de toute façon, il fallait innover, il fallait, voilà, on a ressorti tous nos jeux qu'on avait rangés dans le placard, on s'est mis à jouer avec eux à des jeux peut-être qu'on n'avait jamais fait, à faire des cache-cache géants, à faire des potions magiques. Alors, nous, on a fait beaucoup de potions magiques pendant le confinement, et ça les amusait, donc je leur donnais un saladier à chacun. Donc là, dans le livre, je l'ai appelé la potion magique de Georges Bouillon, en référence au livre « La potion magique de Georges Bouillon » de Roald Dahl, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite. Et donc, on est Georges et on autorise donc nos enfants à prendre tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils trouvent, le shampoing, la crème, dans le placard à épicerie, le riz, l'huile, la lessive, le dentifrice, enfin n'importe quoi, et de mélanger. Bon, on reste quand même à côté, mais de pouvoir mélanger, de faire sa propre potion magique. Voilà. Et ça peut être aussi des alternatives qu'on peut proposer tout de suite derrière la frustration, quand on va leur dire voilà, ça a sonné, ton temps d'écran est terminé, ou t'as passé 2 heures à regarder la télévision, hein, parce que voilà. Et derrière leur dire, ben ça te dit pas de qu'on fasse ou que tu fasses une potion magique et qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Et donc ça va accompagner aussi la frustration.
Ouais, c'est génial.
Que l'enfant peut avoir aussi derrière quand il va devoir lâcher son écran, ou alors sortir, aller faire un foot, ou d'aller faire une balade, ou d'aller chercher des feuilles pour ensuite en faire une activité de land art que je propose aussi dans le livre. Mais ça va les aider à sortir et essayer aussi d'alterner des temps d'écran et puis des temps hors écran.
Moi, de toute façon, c'est ce que je trouve génial, c'est que en fait, non seulement vous les responsabilisez et vous les rendez autonomes par rapport à l'usage des écrans, mais surtout, en fait, à travers toutes ces petites activités, vous arrivez à faire en sorte de développer leur créativité, leur imaginaire, un retour aussi vers la nature, avec le collectif. Donc, vraiment, je trouve cette méthode assez incroyable. Donc, bravo pour ça.
Ça va passer par là, en fait, parce que c'est vrai que les enfants, mon aîné, c'est vrai que depuis qu'il fait énormément de sport en grandissant, donc il est engagé dans une équipe de baseball. Avant, il faisait du basket, mais aujourd'hui, il fait du baseball 2 fois par semaine, plus les matchs le week-end. Et c'est vrai que c'est du temps aussi en moins qui passe à la maison, où il va être attiré. Bien sûr, aujourd'hui, il a 12 ans, il va bientôt avoir 13 ans. Où ses copains vont lui dire hey, tu te connais quand pour jouer donc c'est pas forcément des activités. Oui, j'aime beaucoup les activités manuelles, on essaye de faire plein de choses, et même si c'est pas des activités manuelles, ça va être cuisiner avec eux, partager, ils vont m'aider à étendre le linge, enfin des choses en fait que parfois on a peut-être oublié parce qu'on veut faire vite et on veut faire les choses à leur place. Et c'est aussi un peu remettre du bon sens dans la vie de famille. Mais aussi quand les enfants font le sport, et ça c'est un des impacts négatifs des écrans, on en parle beaucoup, les enfants, les adolescents, il y a une étude récente qui a montré que ces temps d'écran ont augmenté, explosé, et que les enfants font de moins en moins d'activités physiques et sportives. Mais finalement c'est un peu ça, oui, si on pouvait les mettre, alors bon, il s'agit pas non plus, parfois on peut pas pour X raisons les mettre dans un club de sport ou voilà. Mais plus on va passer du temps dehors aussi, plus on sera loin des écrans, enfin des excès d'écran dans une journée de 12 heures. Voilà.
C'est sûr. On arrive déjà malheureusement à la fin de cette discussion.
Ça passe très vite.
Et j'ai adoré parler de tout ça avec vous, et je trouve que c'est d'une grande inspiration au quotidien pour tous les adultes qui sont confrontés à un usage important des écrans des enfants. Donc pour ça, merci beaucoup, et j'invite vraiment tous nos auditeurs à se procurer ce livre, pardon, qui est une véritable mine d'or d'inspiration et d'activité à mettre en place en famille pour se retrouver autour, comme vous le dites, de temps un peu plus long et créatif. Donc merci beaucoup Natacha pour votre temps, c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous.
Merci à vous, je vous remercie pour cette invitation, et puis j'espère que j'ai pu donner des pistes et aider des parents qui se questionnent là-dessus et qui comme moi ont culpabilisé, et de leur dire que on fait toujours de notre mieux et qu'on peut y arriver, et surtout changer les règles à un moment donné, c'est possible. Il suffit de le décider.
Ben c'est ça. Merci beaucoup et à très bientôt.
Au revoir, merci.
Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de Demain.